midi 13h, le grand déballage avec Adil Farkan sur Beurre FM.
Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver. C'est parti pour une émission spéciale. Merci à vous si vous venez de nous retrouver. Vous le savez, on est en train de vous faire vivre à la radio Beurre FM, évidemment, pendant ce confinement. Eh bien, toute une série d'émissions qui vous accompagnent du matin au soir, vous le savez. Et aujourd'hui, le grand déballage, eh bien, il vous propose, vous le savez, tout simplement, une émission spéciale autour de l'accident de Villeneuve-la-Garenne qui a provoqué des violences et qui a fait couler beaucoup d'encre. Alors, évidemment, l'envie d'émeute, elle s'est répandue immédiatement dans les quartiers populaires. Et la lassitude dans les rangs de forces de l'ordre a aussi pris de l'ampleur. Alors, on va tâcher aujourd'hui, avec une série d'invités, vous le savez, de mieux comprendre, de comprendre de nouveau, vous le savez. Certains me diront à faire en sorte que ces tensions persistent et durent. Nous allons tenter de comprendre tout cela avec une série d'invités. Nadir Kaya, qui est le président de Banlieue Plus, qui sera avec nous tout à l'heure, dans une poignée de minutes. Et puis ensuite, après, vers 12h15, le ministre de la Ville, Julien Denormandie, qui sera avec nous en direct et qui répondra aussi également à vos questions. Et enfin, vers 12h40-45, nous serons avec Mohamed Meshmash, qui est donc le porte-parole d'Assez le Feu, qui viendra aussi nous expliquer comment il s'est investi dans le 93 et comment il a essayé de faire baisser les tensions donc, concernant ces incidents qui ont éclaté durant plusieurs nuits, quatre nuits précisément en banlieue parisienne, et notamment où une école a été endommagée par un incendie sur la ville de Gennevilliers, sur le département du 90. Alors voilà, c'est le menu que je vous propose tout de suite, donc de midi à 13h, et tout à l'heure, vers 12h30, 0153 48 3000 pour intervenir. Je suis avec mon premier invité, et on va l'accueillir. Nadir Kaya, bonjour.
Bonjour Adil, bonjour à tous.
Bonjour Nadir Kaya, donc vous êtes le président de Banlieue Plus. Monsieur le président, tout d'abord, première question, dites-moi vous-même, évidemment vous les avez vécues ces nuits d'incidents qui ont éclaté notamment sur votre département, la ville de Gennevilliers. Vous le disiez vous-même sous la forme dans les réseaux sociaux, vous disiez que c'est l'école qui a été endommagée par un incident à Gennevilliers, c'est l'école de votre enfance. Qu'est-ce que cela provoque chez vous ?
Tristesse parce que c'est un rapport à ma personne, donc il y a une certaine nostalgie, certes. Mais ce qui me désole, c'est qu'on en est encore en 2020 à voir des actes qui existent depuis très longtemps. C'est un appel aussi qui est lancé malheureusement sous forme de violence à ces politiques et à toutes ces personnes qui dénigrent la banlieue, mais qui veulent juste rappeler la réalité de ces quartiers populaires. Bien évidemment, personne ne justifie la violence, on la condamne tous. Il n'y a pas de débat là-dessus. Ce n'est pas le produit du confinement, comme certains avaient essayé de le faire croire, même si le confinement apporte des difficultés supplémentaires dans les quartiers. Mais la résultante de cette situation, c'est le passif. Et c'est aussi l'immobilisme des médias à vouloir enfin régler de façon profonde la situation dans les quartiers populaires. Et donc, ça se concrétise malheureusement suite à cet accident à Villeneuve-la-Garenne où une personne a été percutée volontairement ou pas. Bon, l'enquête le dira, mais bon, j'ai pas d'espoir. Hein. On sait très bien que l'IGPN, déjà dans un premier temps, n'est pas sérieuse pour être impartiale et donner des vrais résultats. Mais le vrai souci de cette situation, c'est surtout l'impunité. J'ai encore hier soir assisté à une interpellation hyper violente de la part de policiers auprès de trois jeunes qui se sauvaient, qui apparemment lançaient des fumigènes. Ça, on le condamne. Mais il y a eu quand même une vidéo qui montre la violence de l'interpellation de la police. Et c'est ça qui nous pose problème aujourd'hui.
Vous l'avez dit vous-même, Monsieur le Président, l'accident d'un motard, c'était samedi soir, qui impliquait donc un véhicule de police qui a provoqué justement des tensions ces dernières nuits. Et vous le disiez vous-même, Monsieur le Président, ma question va être très simple. Franchement, beaucoup ont fait le rapprochement avec le confinement qui devient évidemment extrêmement compliqué. Est-ce qu'il y a un rapport avec le confinement qu'on est en train de vivre et de façon inédite avec ces incidents, ces tensions qui ont duré plusieurs jours?
Non, moi je veux pas croire que le confinement est la raison de cette violence. Hein. Là, c'est, on voit les images, on a entendu les témoignages par la suite. Il y a eu un accident ou un incident. Maintenant, il faut qu'il y ait une enquête qui soit faite jusqu'au bout, même si je vous ai dit, j'ai pas d'espoir que ça amène à la réalité, parce que il y a des crimes et des bavures policières dans les quartiers populaires depuis toujours, et malheureusement, vous avez encore des familles aujourd'hui, quelques années après, qui attendent la justice. Donc, au-delà de faire le constat que la police, de façon générale, a du mal à faire son travail parce qu'il y a un manque de moyens, ça c'est factuel, c'est une réalité, mais vous avez aussi une police qui, dans les quartiers populaires, agit de façon hors la loi depuis des années, et malheureusement, le fait que la justice ne soit pas capable de les punir au même niveau qu'un délinquant qui commet un acte criminel ou répréhensible, ça pose ce problème-là d'impunité. Voilà. Donc il faut une
justice. Alors justement, Monsieur le Président, je voudrais vous poser ma question que beaucoup, d'ailleurs, est dans les esprits de nos auditeurs. Vous savez, ces tensions qui ont donc provoqué, évidemment, plusieurs nuits hein, d'incidents entre la police et les jeunes. Il s'agit là à la fois de plusieurs villes dans le département du 93, mais également un autre département qui est touché, c'est celui du 92, vous concernant. Gennevilliers, Asnières, Nanterre, Suresnes, est-ce que clairement, oui ou non, Monsieur le Président, vous de Banlieue Plus, la question de bavure policière est sur la table ?
Mais cette question, elle est sur la table comme tout un ensemble de questions qui sont connues de tous, mais comme l'éducation nationale, les inégalités structurelles, les discriminations qui pèsent aussi sur la population, parce qu'on a fait souvent le parallèle avec la ruralité qui a aussi certaines difficultés qui sont les mêmes qu'en banlieue, mais à la différence, ils ne subissent pas des inégalités ethniques, sociales et raciales comme nous on peut le subir en banlieue. Donc aujourd'hui, il faut absolument que Monsieur Emmanuel Macron et Monsieur de Normandie prennent la réalité à bras-le-corps et entreprennent rapidement une réunion d'urgence avec des personnes de bonne volonté voulant trouver des solutions, que ce soit des responsables associatifs, des sociologues, des professeurs, des policiers, des personnes qui connaissent réellement la situation des quartiers populaires. Parce qu'il faut absolument, dans un premier temps, qu'on réponde à cette situation et qu'on appelle au calme en démontrant que les uns et les autres vont essayer de trouver des solutions, mais qu'à moyen et court terme, quoi, à court terme et à moyen terme, le président de la République prenne ses responsabilités et travaille réellement sur la question des quartiers populaires.
Mais vous-même, Nadir Kaya, vous l'avez sollicité à plusieurs reprises, notamment à la fois le président de la République Emmanuel Macron, mais également aussi le ministre Julien de Normandie qui sera avec nous tout à l'heure à 12h15 précisément. Vous les avez sollicités à plusieurs reprises pour leur dire à la fois un cri d'alarme, à la fois aussi pour attirer leur attention sur la problématique des quartiers populaires. Est-ce que vous-même, Monsieur le Président, vous avez eu un retour depuis, évidemment, ces derniers mois ? Est-ce qu'on vous a dit que les choses allaient évoluer, qu'elles allaient bouger ? Bref, on aimerait aujourd'hui faire le point avec vous.
Ah ben, je vous cacherai pas que je fais partie de ces acteurs associatifs qui tendons la main à tous les politiques depuis des années. Ça a commencé déjà avec Sarkozy à l'époque quand on essayait de discuter, et puis Hollande et aujourd'hui Monsieur Macron. Je vous cacherai pas que rien n'a été fait réellement. Il y a eu des petites discussions, des réunions, mais sans réel retour. Donc aujourd'hui, moi, à titre personnel, j'ai eu des discussions avec Monsieur de Normandie. Mais je pense que, même si je crois qu'il est de bonne volonté, je pense qu'il est limité dans son action. Preuve en est, aujourd'hui, M. Macron n'a toujours pas entrepris d'inviter des personnes qui souhaitent trouver des solutions à cette situation et aux situations qui perdurent. Donc je désespère un peu.
Est-ce qu'on a une raison ? Est-ce qu'on a une explication, Nadir Kaya ?
Bah, l'explication, elle est complexe, mais je peux donner quelques éléments. C'est le rapport de force. Les quartiers populaires sont principalement des personnes qui malheureusement ne votent pas, donc ne sont pas une force politique, donc ne sont pas capables d'impulser un rapport de force permanent comme certains lobbies le font, que ce soit des lobbies économiques, politiques, religieux ou autres dans notre société. Donc les quartiers populaires, on est entendu par certaines personnes, mais quand il s'agit réellement de travailler avec nous sur les problématiques qui nous concernent, et parce que les solutions, elles viendront de nous et de personne d'autre, eh ben là, il n'y a plus personne. Donc moi, Macron, je l'ai entendu sur certains discours, il avait l'air intéressant sur ses propos et motivé sur certains sujets, mais concernant les banlieues, on a vu aussi la démission il n'y a pas très longtemps de M. Mechmache et de M. Bellatar du Conseil des villes qui nous rappelait qu'il n'y avait pas de volonté politique, et malheureusement, je crois que c'est aussi une réalité aujourd'hui. Les politiciens aujourd'hui ne veulent pas agir pour les banlieues parce que aussi il y a un élément qu'il faut prendre en compte, c'est que l'opinion publique n'est pas favorable à une action pour les quartiers parce qu'on fait croire qu'on a déversé des milliards comme si c'était de l'argent de poche aux habitants et que rien n'a été fait. Moi, je voudrais juste rappeler que les milliards ont été injectés et que ces milliards, c'était nos impôts aussi et que ce sont les collectivités, les communes, les régions, donc des politiciens, donc des élus qui ont géré cet argent. Et c'est aussi une des raisons de cette situation aujourd'hui. Ça a mal été géré parce que ça a été fait pour les habitants et pas avec les habitants.
Alors, pour les habitants et pas avec les habitants, justement, dites-moi, monsieur Nadir Kaya, alors, cette nuit a été relativement plus sereine que les nuits dernières. J'aimerais juste, vous savez, j'aimerais poser un peu le cadre. Ces incidents avec les forces de l'ordre, puisque ça part aussi d'un emballement sur les réseaux sociaux, d'un emballement des cités, des différents quartiers populaires, c'était inéluctable, hein, d'ailleurs, j'ai envie de dire, cette triptyque. Alors, aujourd'hui, clairement, vous-même, votre sentiment, est-ce qu'il y a une incompréhension mutuelle ou est-ce que c'est une frustration, un ras-le-bol, une colère, un sentiment d'injustice? J'aimerais vraiment qu'on comprenne.
Alors, Adil, c'est très compliqué parce que c'est un tout. Et c'est un tout, moi j'insiste sur le passif, parce que sur l'histoire des quartiers populaires et la relation avec les hommes politiques. Ça a commencé très tôt avec François Mitterrand et SOS Racisme et tout un ensemble de politiciens qui ont voulu un peu manipuler cette jeunesse qui commençait à grandir et vouloir s'exprimer. Et jusqu'à aujourd'hui, hein, on n'est pas entendu, je voudrais pas rentrer dans un propos complotiste, mais pour les gens qui ne comprennent pas la réalité, c'est-à-dire qui ne voient pas tout le travail que nous on peut faire sur le terrain, donc pas simplement le travail sur nos quartiers, mais les discussions et les échanges qu'on essaie d'avoir avec des politiciens, avec des gens engagés, avec des médias, et quand on voit que c'est les mêmes discussions qui perdurent depuis 10, 20 ans ou 30 ans, moi aujourd'hui, le constat, je ne peux pas croire que ces gens-là ne savent pas. Il y a un déni aujourd'hui de la situation. Il y a un déni qui n'est pas le fruit d'une méconnaissance, mais d'un manque, sérieusement, d'un manque de volonté de faire les choses, parce que je pense, et beaucoup le pensent également, et c'est factuel aussi, qu'il y a un mépris par rapport à ces populations, par rapport à l'histoire aussi, le rapport avec la guerre d'Algérie, le rapport avec l'immigration, le rapport avec cette jeunesse qui ne veut pas être plus que les autres, mais recherche simplement l'équité, la justice. Et il y a un ensemble d'enquêtes, d'éléments qui démontrent que l'État aussi à des postures qui sont paradoxales, qui sont parfois racistes, qui sont des réflexes paternalistes. Et quand on a des politiciens qui aujourd'hui, comme Monsieur Macron les incarne, qui prétendent vouloir changer tout un ensemble de systèmes, le système politique français, mais qui aujourd'hui, sur la question du quartier populaire, n'arrivent toujours pas à ouvrir la porte sur des vraies discussions, parce que les quartiers populaires, c'est pas aussi la violence, c'est aussi ses talents, c'est aussi ses réussites, c'est aussi ses compétences. Donc si on veut trouver aujourd'hui des solutions aux problèmes, il faut déjà avoir la volonté et puis mettre en face des personnes qui souhaitent proposer des solutions. Les solutions, elles sont souvent très simples.
Nadir Kaya, il nous reste quelques minutes avant de rendre l'antenne. Je voudrais juste vous poser cette question vraiment précise et vous me répondez de façon précise, s'il vous plaît. Aujourd'hui, les policiers dénoncent l'impunité généralisée, les provocations de délinquants et la haine anti. Franchement, alors, je sais que vous êtes battu justement de longues années pour essayer de créer du lien entre la police, les jeunes, les quartiers populaires. Est-ce qu'il y a une haine anti-flic aujourd'hui?
Alors, il y a une haine de la part de certaines personnes dans les quartiers. Et cette haine, après, on peut la diviser en plusieurs parties. Vous avez une haine de personnes qui sont comme nous, des militants. Je dis pas qu'on a une haine. Moi, j'ai pas d'haine envers la police. Mais si vous voulez, ce qui est énervant aujourd'hui, c'est cette impunité par rapport à une certaine police. Et après, évidemment, qu'il y a des délinquants qui sont peut-être pas punis comme ils le devraient par rapport à la récidiviste et tout ça. Mais la justice aujourd'hui, les prisons sont complètement débordées. Elles sont complètement en sous-infrastructure. Elles ont plus les moyens aussi de s'occuper des prisonniers comme il faut. La plupart des gens sont des récidivistes. Donc c'est une défaillance de l'État à tous les niveaux aujourd'hui. Donc oui, il y a ce ressenti de la part de certaines personnes en banlieue vis-à-vis de la police qui fait mal son travail, mais il y a aussi la grande majorité des citoyens des quartiers populaires qui savent qu'il faut une police et qu'il faut une police avec des moyens pour lutter face à la criminalité, à la délinquance, mais il faut une police aussi exemplaire. Et c'est pas le cas aujourd'hui et c'est pas le cas depuis 40 ans. Il y a aussi une police...
Nadir Kaya, On va devoir rendre l'antenne justement pour faire une pub, pour marquer une page pub. Dites-moi en 10 secondes, qu'est-ce que vous avez envie de livrer au message à celles et ceux qui vous écoutent aujourd'hui, Nadir Kaya?
Bah, moi, j'ai deux messages. Le premier, c'est aux habitants des quartiers populaires. Il faut comprendre qu'il faut être des citoyens engagés, pas simplement le temps d'une échéance politique, de façon permanente, pour créer un vrai rapport de force, pour être force de proposition vis-à-vis des nôtres, vis-à-vis des jeunes et des moins jeunes, mais aussi faire face aux politiciens qui se jouent de cette situation et qui, malheureusement, ne comprennent pas la réalité et les attentes des quartiers populaires. Donc, il y a un vrai travail à faire. Merci. Avec les habitants en termes de responsabilité.
Merci infiniment Nadir Kaya, vous êtes le président de Banlieue Plus. Merci d'avoir été avec nous à l'antenne.
Merci beaucoup.
Grand déballage. On marque une courte page pub et on se retrouve justement avec le ministre de la Ville, Julien de Normandie. Et j'ouvrirai l'antenne tout à l'heure au 01 53 48 3000, justement pour vous permettre de l'interpeller sur des questions précises. On parlera de logement, de confinement, de ces incidents qui se sont déroulés dans les différents quartiers populaires, mais également aussi, évidemment, sur quelques annonces concernant l'éducation et puis les moyens qui vont déployer dans les différents quartiers. A tout de suite, ne bougez pas, restez avec nous.
Le grand déballage revient dans un instant. Beurre FM, midi 13h, le grand déballage avec Adil Farkan.
Nous revoilà donc en direct dans le grand déballage. Le grand déballage avec un petit léger décalage, vous le savez. Tout simplement, le grand déballage, je vous le disais tout à l'heure, 0153 48 3000, je vous permettrai de communiquer et d'interpeller le ministre Julien de Normandie, monsieur Julien de Normandie, sur les questions précises concernant le confinement, les tensions qui se sont déroulées ces derniers jours dans les différents quartiers populaires, mais également aussi, vous savez, on s'intéressera à tous celles et ceux qui vivent ce confinement dans un logement suroccupé. Justement, pour en parler, monsieur le ministre de la Ville, Julien de Normandie, bonjour.
Bonjour.
Bonjour, vous êtes avec nous. Merci, en tout cas, évidemment, de nous consacrer quelques minutes sur l'antenne donc de Beurre FM dans le grand déballage de 12h à 13h. Tout à l'heure, vous serez confronté à quelques petites séries de questions donc de nos auditeurs. Monsieur le ministre, la question est très simple. Aujourd'hui, évidemment, j'en parlais avec Nadir Kaya, qui est le président de Banlieue Plus, juste avant là, avant de vous recevoir à l'antenne. Est-ce qu'on peut considérer que la température est montée dangereusement dans les quartiers populaires?
Ce qui est sûr, c'est qu'il y a des situations qui sont difficiles, qui sont très différentes d'un quartier à un autre. Et évidemment, mais tout comme le disait Nadir Kaya, il faut appeler au calme. Mais je crois que tout le monde en est convaincu. D'ailleurs, ce calme, il est d'abord pour les habitants des quartiers qui ont connu des événements ces derniers jours. Et puis, j'ai entendu Nadir Kaya tout à l'heure sur votre antenne. Moi, je voudrais simplement dire, parce que c'est une question très légitime que pose Nadir Kaya, est-ce qu'il y a véritablement une volonté politique pour trouver des solutions, mais des solutions durables vis-à-vis de ces quartiers où il y a plus de chômage qu'ailleurs, où parfois l'éducation elle est plus compliquée qu'ailleurs, où parfois et souvent le logement il est plus petit, il est de moins de bonne qualité qu'ailleurs. Moi, ça fait 3 ans maintenant, quasiment, que je suis en charge de ces politiques au sein du gouvernement. Ça fait longtemps que je connais le président de la République. Je peux vous dire que la volonté politique, elle est énorme, elle est totale. On travaille sans relâche depuis 3 ans sur l'habitat, sur l'éducation, sur l'accompagnement.
Le président de
et vraiment, moi, je Nadir tiens à le dire,
volonté, il vous a interpellé, vous là, et le président de la République, Emmanuel Macron. Nadir Kaya vous a interpellé, vous, il y a quelques mois, et le président de la République, sur les questions des quartiers populaires. Qu'est-ce que vous lui répondez, justement, si vous l'avez entendu dans le grand déballage?
Eh bien, que la volonté politique, d'abord, elle est là. Je crois que c'est très important de le dire. Moi, je ne laisserai jamais tomber les quartiers. Vous savez, c'est un enfant sur 6 aujourd'hui dans notre pays, voire plus, il vit dans les quartiers. Et donc, il faut donner à tous ces enfants de la République les mêmes chances de réussite que les autres. Oui. Alors, comment on agit? Depuis de nombreux mois maintenant, on agit très fort sur l'éducation. Sur, pour ceux qui en ont entendu parler, sur ces fameuses cités éducatives, c'est beaucoup de fonds supplémentaires qu'on a mis et beaucoup de solutions qu'on a trouvées pour les enfants des quartiers. On agit beaucoup encore et encore dans la rénovation des logements, dans la rénovation de l'urbanisme. Et puis surtout, moi je veux insister dessus, il faut agir encore plus sur la question du travail. La question du travail, elle est essentielle. Les gens dans les quartiers, ils ne demandent pas l'aumône. Ils demandent d'avoir les mêmes chances de trouver un boulot que les autres. Or, aujourd'hui, c'est pas encore le cas. Parce qu'il y a de la discrimination. Il faut appeler un chat un chat. C'est pour ça, il y a quelques mois, vous l'avez peut-être vu, j'ai lancé un grand testing vis-à-vis des entreprises pour pointer du doigt lorsqu'il y a de la discrimination. Parce que cette question du travail, elle est essentielle. C'est ça aussi qu'on a fait avec un dispositif qui marche très bien en ce moment, que sont les emplois francs. Bref, éducation, logement, travaille. C'est comme ça qu'on arrivera à améliorer la situation. Alors, tout se fait pas du jour au lendemain, mais il faut continuer. Et la crise du moment montre à quel point les inégalités, elles sont fortes encore. Et donc, il faut aller encore plus vite. Bref, j'entends totalement l'appel de Nadir Kaya et je partage sa volonté pleinement.
Alors, vous partagez sa volonté. Justement, parlons-en, ce confinement. Vous savez, et je ne vous l'apprends pas, monsieur le ministre, de Clichy à Gennevilliers, en passant par, évidemment, je vais m'intéresser plus particulièrement à cette population aujourd'hui du département du 93. D'abord, première question, vous savez, ce confinement, et je voudrais vous entendre, monsieur le ministre, qu'avez-vous à dire à la population du 93, qui, elle, est la plus touchée du département d'Île-de-France?
Oui, elle est très particulièrement touchée, il faut le dire, là aussi. Et deuxièmement, c'est en vrai un sacrifice, le confinement. Mais c'est un sacrifice encore plus fort quand vous êtes confiné dans un petit appart, quand vous êtes confiné à plusieurs, parfois dans un lieu qui n'a pas tout le confort que d'autres ont. Donc oui, ce sacrifice, il est très fort. Alors, qu'est-ce que montre cette crise? Qu'effectivement, les inégalités, en particulier en Seine-Saint-Denis, mais pas que, hein, elles sont particulièrement fortes. Ce qui est sûr, c'est que on n'a pas attendu cette crise pour le mettre en avant, cette inégalité. Quelques mois avant la crise, avec le Premier ministre, on a lancé un plan dédié qui s'appelle le plan Seine-Saint-Denis. C'est l'une des premières fois qu'un tel plan d'ampleur avait été mis en place. Avec d'ailleurs, et je reviens sur ce que disait Nadir Kaya, avec d'ailleurs un message politique très fort qui était de dire, nous gouvernements, on dit et on l'écrit et on le montre que oui, les inégalités sont plus criantes en Seine-Saint-Denis que dans d'autres. Et face à ça, on prend des mesures. C'est tout le plan Seine-Saint-Denis qui a été annoncé juste quelques mois avant le confinement, qui porte sur l'école, l'hôpital, sur les services publics. Quel gros sujet, très important, la présence des services publics dans les quartiers. Et ça, on est en train de le mettre en œuvre. Malheureusement, la mise en œuvre n'était pas finalisée avant le confinement. Donc ces inégalités, elles sont mises en exergue pendant le confinement. Mais moi, vous savez, ça forge en moi une volonté encore plus forte d'avancer rapidement parce que il faut donner les mêmes chances de réussite à nos enfants de la République, quel que soit l'endroit où ils habitent. C'est ça ma volonté la plus forte. Et ça passe, encore une fois, l'éducation, l'habitat, le travail. Je crois que c'est ça les trois angles.
Alors j'entends bien, monsieur le ministre, mais j'entends bien, monsieur le ministre.
Donne la réussite républicaine.
Mais la mortalité, elle reste exceptionnelle en Seine-Saint-Denis. Dans le département où on a vu un chiffre, 60% d'une semaine à l'autre, d'ailleurs pour des raisons diverses, vous avez parlé de précarité des habitants, on l'entend bien aujourd'hui, mais la Seine-Saint-Denis aujourd'hui, évidemment, est fortement touchée par le coronavirus. Qu'est-ce que vous allez déployer comme à la fois moyens financiers, mais à la fois aussi d'autres peut-être moyens? Je vous ai vu notamment dans Le Parisien de la semaine dernière, il y a quelques jours, une interview où vous avez dit, parmi lesquels 5 millions d'euros pour soutenir des actions de solidarité dans les quartiers les plus sensibles. Ça veut dire quoi?
Ça veut dire que concrètement, vous savez, en ce moment, on parle des quartiers quand ça va mal, comme d'habitude d'ailleurs. Hein. C'est le grand jeu médiatique de parler des quartiers quand ça va mal. Bon, et il faut jamais renier la réalité ou se cacher derrière son petit doigt. Oui, il y a des situations très difficiles. Et oui, il faut appeler au calme et dénoncer toute forme de violence dans notre démocratie, quelle qu'elle soit, évidemment. Bon, mais dans les quartiers, qu'est-ce qu'on observe aussi? Des élans de solidarité incroyables. Et d'ailleurs, la solidarité, c'est quelque chose qui est au cœur même de l'ADN des quartiers. Une solidarité très forte. Et moi, il y a une sorte de frustration que j'avais. C'est que l'État, il finance, et en particulier mon ministère, énormément d'associations. Énormément. Mais c'est des financements que je donne en début d'année sur près de 8000 associations, pour vous donner un chiffre. 8000, c'est énorme. Bon. Mais je n'avais pas la capacité de soutenir les élans de solidarité. Vous savez, c'est quelques milliers d'euros qui sont nécessaires pour permettre à une assoce qui fait de la solidarité d'acheter de l'aide alimentaire, d'acheter de l'empaquetage, de mettre de l'essence dans le camion qui va livrer, etc. Ça n'existait pas. Or, moi, je veux soutenir ces solidarités parce qu'elles sont belles et puis parce qu'elles ressemblent aussi à beaucoup de nos quartiers. Et donc, j'ai annoncé en début de semaine un fonds de 5 millions d'euros. C'est pas rien. Ce fonds, il est géré par toutes nos préfectures. Oui. Donc tous ceux qui font, qui sont dans des associations et qui font des actions de solidarité de très grande proximité, ils peuvent, depuis lundi, se tourner vers leurs contacts dans les préfectures pour leur dire, ben voilà, moi j'ai besoin de 500 euros ici, 2000 euros ici, 2500 euros là, pour m'accompagner et faire ces élans de solidarité. Parce que cette solidarité, parfois, elle se couple à un sacrifice de celles et ceux qui le font. C'est pas normal. Donc mon rôle, c'est de les accompagner. C'est ça l'idée de ce fonds, de financer cette solidarité quand on en a besoin, et notamment de ces actions de très grande proximité. Et puis de le faire savoir aussi, parce que ces actions de solidarité, on les voit sur les réseaux sociaux. Enfin, on les voit moins que d'autres actions. Et moi, je veux les faire connaître. Parce que c'est ça aussi l'ADN et la vie dans nos quartiers.
Dites-moi, monsieur le ministre, Julien de Normandie, le confinement, vous savez, c'est aussi une réalité. Une réalité fatale. Ces files, ces longues files d'attente de la faim qui sévissent dans les quartiers populaires. Je fais référence notamment, vous savez, à ce quartier qui a fait parler de lui, Clichy-sous-Bois. On sera tout à l'heure, juste après votre interview avec Mohamed Mechmash, pour essayer de dresser un tableau. Le confinement a provoqué, par l'épidémie de coronavirus, une situation inquiétante dans les quartiers populaires qui a mis en garde beaucoup de politiques, notamment vous-même. Alors, cette file d'attente de la faim aujourd'hui, comment l'endiguer et comment essayer évidemment d'apporter des réponses claires face à ces familles qui vivent des grosses difficultés ?
Ben vous avez raison, il y a des familles pour qui c'est extrêmement difficile. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire face à ça ? D'abord, il faut apporter les ressources pour que chacun puisse vivre dignement. Et les mots sont forts, hein, mais c'est ça qu'il faut faire. Face à ça, quand vous êtes salarié, par exemple, et que votre entreprise elle a plus de chiffre d'affaires, bon, on a créé des dispositifs comme le chômage partiel ou le fonds de solidarité quand vous avez un commerce et qu'il a fermé. 1500 euros par mois pour ce fonds de solidarité. Mais parfois, c'est pas suffisant. Parce que vos enfants, ils allaient avant à la cantine. La cantine, parfois, c'était moins de 1 euro. Et aujourd'hui, vous avez plus de dépenses. Parfois, le marché, il a fermé. Et donc, vous allez dans des commerces qui coûtent plus cher. Et donc parfois, même si vous avez des ressources qu'on apporte, c'est pas suffisant. Donc face à ça, qu'est-ce qu'il faut faire ? Aller encore plus loin. Pour aller plus loin, on a mis en place une aide sociale exceptionnelle pour 4 millions de familles. Toutes les familles qui sont aujourd'hui au RSA, à l'ASS ou aux APL, les aides au logement, le 15 mai, ils vont recevoir 100 euros par enfant. Si vous avez 3 enfants, 300 euros. 5 enfants, 500 euros. Automatiquement, aucune démarche à faire. Et puis, si en plus vous êtes au RSA et à l'ASS, en plus de ces 100 euros par enfant, vous aurez 150
euros. Donc aucune
euros.
Démarche à faire, elle aucune. Est...
automatique, et c'est très important.
Elle est aussitôt donc opérationnelle, là.
Exactement, le 15 mai. Et moi, je voulais absolument que ce soit une démarche où il n'y a rien à faire, parce que trop souvent, les aides qu'on met en place, vous avez du non-recours. Et souvent, plus vous êtes fragile, plus vous n'avez pas accès aux aides. Et donc, je voulais que ce soit quelque chose d'automatique. Donc, le 15 mai, pour 4 millions de familles, 100 euros par enfant dès que ces familles sont au RSA, à l'ASS ou aux APL. Bon. Mais le 15 mai, c'est dans 3 semaines. Et parfois, c'est long pour beaucoup de familles. Et pourquoi on ne peut pas aller plus vite ? Parce que justement, comme tout est automatique, ça met un peu de temps. Et donc face à ça, on a annoncé d'ailleurs ce matin, j'en reviens, des chèques services, des chèques alimentaires, pour venir aider les associations, pour venir accompagner les très belles initiatives comme celle que fait Mohamed Mechmash à Clichy, que vous évoquiez, que font aussi les collectivités locales. Et donc, on a annoncé ce matin un plan de 50 millions d'euros avec...
Ce matin, vous étiez donc, rappelons-le, dans un contexte avec Christelle Dubos, donc la secrétaire d'État auprès donc, du ministre des Solidarités, et vous aviez donc... provoquer une conférence de presse à laquelle vous aviez donc annoncé le soutien aux plus précaires avec un plan, si j'ai bien compris, de soutien d'urgence à l'aide alimentaire, monsieur le ministre.
C'est exactement ça. Et comment on fait ? Deux choses. D'abord, on soutient les associations d'aide alimentaire. Très important parce qu'elles font un boulot fabuleux et parfois elles ont été en difficulté, des difficultés de personnel. Souvent, c'était des bénévoles mais un peu âgés. Et donc, ils sont les premiers à être confinés. C'est bien normal. Et parfois, il manque de moyens pour aller acheter de la nourriture pour ensuite les distribuer. Et donc là, on a mis en place une enveloppe de plus de 20 millions d'euros pour aider ces associations-là. Premier point. Et puis, deuxième point, parfois, les associations d'aide alimentaire, elles ne sont pas présentes ou pas suffisamment présentes. Et donc là, on a décidé de mettre en place des chèques-services comme des tickets restaurants qui vont pouvoir être distribués. Moi, je l'avais déjà fait pour les publics très, très précaires il y a 3 semaines. En le distribuant aux personnes que j'héberge dans les dispositifs d'urgence. chaque jour, depuis 3 semaines, c'est 60 000 à 90 000 personnes qui bénéficient de ces chèques. Bon, on voulait aller plus loin, et c'est pour ça que ce matin, on a annoncé qu'on allait aller encore plus loin et plus rapidement dans la distribution de ces chèques, avec une nouvelle mesure, 15 millions d'euros supplémentaires pour acheter plus de chèques et pour pouvoir en donner à plus de familles. C'est du très concret, en attendant notamment cette aide du 15 mai. Du très très concret, parce que, vous savez, il faut pouvoir vivre dignement dans cette période.
On a noté deux éléments très importants. Le 15 mai, mais également aussi ces 15 millions que vous remettez sur la table. Concernant donc cette précarité liée évidemment à cette inquiétude du risque alimentaire. Est-ce que vous êtes d'accord avec les propos du préfet de la Seine-Saint-Denis qui lui s'alarme du risque alimentaire pour les plus précaires? Il dit carrément que le département est menacé par ce risque alimentaire. Et les émeutes de la faim, il parle même.
Ben, c'est précisément parce que je suis conscient depuis le premier jour des difficultés que rencontrent nos familles de la République qui vivent dans tous ces quartiers, que depuis le premier jour, je me suis battu pour mettre en place cette aide exceptionnelle à partir du 15 mai, que je me suis battu avec Christelle Dubos pour qu'ensemble, on puisse mettre en place ces chèques-services, qu'on se bat au quotidien, aux côtés des associations. Et on ne faisait pas suffisamment. Et c'est pour ça que ce matin, on a annoncé un plan de soutien aux associations d'aide alimentaire qui doit être déployé dans les tout prochains jours, pour justement que tous ces acteurs, qu'on fasse bloc et qu'on aille aider les familles qui sont en souffrance. Parce qu'il y a de la souffrance derrière tout ça, la profonde souffrance. Quand vous vous posez la question de savoir comment vous allez faire pour nourrir vos enfants, moi je suis père de famille, j'ai 4 enfants, c'est l'une des pires questions que vous avez à vous poser quand vous êtes parent. Donc oui, il y a de la souffrance, et donc c'est pour ça qu'on agit et qu'on met tout ça en place. Après maintenant, vous savez, c'est comme tout. Hein. Moi, ce qui compte, ce n'est pas les effets d'annonce, les belles paroles, etc. C'est de m'assurer que sur le terrain, tout ce que je vous ai dit là, ça arrive. Et c'est ça maintenant mon obsession. De faire en sorte que le 15 mai, l'aide, elle soit bien versée à tout le monde sans aucune démarche. Que les chèques services ou l'aide pour les associations...
Midi 35 dans le grand déballage. Bienvenue à celles et ceux qui viennent de nous retrouver. Dites-moi, monsieur le ministre, on va marquer une courte pause de quelques minutes à peine, pause pub, et on reviendra sur un dernier sujet sur lequel j'aimerais absolument l'aborder avec vous. Vous savez, durant ce coronavirus, partout dans les différentes villes de France, le confinement en appartement met les familles nombreuses à rude épreuve. Et je voudrais vraiment en parler avec vous, juste après la pub. 01 53 48 3000, si vous avez des questions, je vais prendre les 3 premières questions destinées donc à monsieur le ministre. Évidemment, j'espère que j'aurai le temps pour que permettre aux auditeurs de vous interpeller. Allez, pub, et on se retrouve, monsieur le ministre, juste après quelques minutes.
Le grand déballage revient dans un instant. Beurre FM, midi 13h, le grand déballage avec Adil Farkan.
Merci, si vous venez de nous rejoindre, sachez-le, nous sommes dans le grand déballage. 12h, 13h, 01 53 48 3000. Merci de vous joindre à nous. Vous le savez, rendez-vous à noter et à ne pas manquer. Surtout, tous les jours, nouveaux programmes, nouveaux changements. Évidemment, nous aussi, on s'adapte durant ce confinement. Donc, 12h, 13h, notez bien, c'est votre nouveau rendez-vous, donc le grand déballage. Nous sommes avec le ministre donc, de la Ville, Julien de Normandie. Je crains qu'on puisse pas évidemment prendre quelques questions des auditeurs, même si évidemment je lance quand même 01 53 48 3000, parce qu'il y a Mohamed Meshmash qui nous attend, et évidemment bien sûr je voudrais m'intéresser à ce département du 93 qui est le porte-parole donc d'Assez le Feu. Monsieur le ministre, monsieur Julien de Normandie, je le disais, dans les villes, vous le savez, l'horizon du confinement se résume souvent aux 4 murs d'un appartement. Alors comment garder le moral? Comment garder le moral avec parfois des parents qui ont plusieurs enfants et qui n'ont pas de soutien, qui ont évidemment très peu de repères aujourd'hui et qui s'interrogent et qui parfois ont du mal avec ce confinement. Alors, les familles nombreuses sont aujourd'hui, on peut le dire, oui ou non, à rude épreuve.
Ah bah oui, vous avez raison. Et clairement, aujourd'hui, le sacrifice, il est du confinement, parce que c'est un sacrifice, le confinement. Il est encore plus fort quand vous êtes beaucoup dans un appartement petit, c'est sûr. Après, la difficulté, c'est que ça renvoie à toute la rénovation qu'il nous faut faire et continuer à faire, cette grande rénovation urbaine qui a été lancée il y a plusieurs années. Il faut continuer à aller très fort dessus. Moi, j'en suis convaincu. Vous savez, l'ANRU que beaucoup de gens connaissent, qui avait été créé par Jean-Louis Borloo en son temps, depuis que j'ai pris les rênes de ce ministère, on a multiplié par 2 les financements de l'ANRU. On n'a pas rajouté un peu d'argent. On a multiplié par deux. On est passé à 10 milliards d'euros. Et maintenant, il faut faire en sorte que juste après le confinement, bah, les grues, elles reviennent effectivement dans les quartiers. Que tout cet argent, il soit véritablement dépensé à bon escient. Parce que moi, je crois que c'est vraiment quelque chose de très important. Et que les grues, elles reviennent dans les quartiers. On a commencé à le faire. Les premières étaient déjà arrivées au début de l'année. Bah, il faut aller encore plus vite après.
Qu'est-ce que vous répondez à celles et ceux aujourd'hui qui ont des difficultés à payer leur loyer, qui vont avoir de graves difficultés, qui ont perdu certainement aussi leur emploi, donc d'abord un premier cas de figure, celles et ceux aujourd'hui qui sont confrontés dans les différentes villes et qui sont aujourd'hui, on le disait, à cette rude épreuve avec des familles nombreuses. Clairement, vous leur répondez quoi, ceux qui ont du mal à régler leur loyer?
Eh ben, il faut qu'ils contactent leur bailleur et on est convenu avec leur bailleur. Par exemple, quand c'est dans un logement social, que des solutions individuelles puissent être trouvées. On a énormément travaillé avec tous ces bailleurs sociaux pour qu'à chaque fois, une solution individuelle puisse être trouvée. Après, il y a une question globale qui nous est posée. C'est ce qu'il faut, par exemple, arrêter le paiement de tous les loyers pour tout le monde. Ben, en réalité, ce n'est pas la bonne solution. La bonne solution, c'est de permettre à chacun de payer son loyer. Parce que si on se parle franchement, moi, je connais personne qui ne souhaite pas payer son loyer. Quand vous payez votre loyer, c'est que vous êtes chez vous. Donc vous souhaitez pouvoir payer votre loyer. Mais par contre, il faut accompagner les gens pour que, oui, quand ils ont des difficultés, qu'une solution puisse être trouvée. Et donc on est convenu avec tous les bailleurs de mettre en place des cellules d'accompagnement. Donc toutes les personnes qui ont des difficultés, en dépit des aides que j'évoquais tout à l'heure, il faut qu'ils contactent leur bailleur pour que cette discussion puisse avoir lieu et que la solution puisse être trouvée. Et moi, derrière, je travaille avec les bailleurs pour évidemment m'assurer que les bailleurs aient la capacité de répondre aux demandes.
Je sais que vous avez fait plusieurs déclarations, notamment dans ces derniers jours. Est-ce qu'il y a des moyens qui vont être déployés justement pour le logement?
Alors, on y travaille, évidemment. On travaille sur la relance. Vous savez, le secteur du logement, c'est d'abord beaucoup de salariés. C'est près de 2 millions de personnes qui travaillent dans le logement. Et qu'est-ce qu'on voit en ce moment? C'est que pendant le confinement, il y a beaucoup des chantiers qui sont à l'arrêt. Ça pose un problème d'abord pour tous ceux qui vivent du logement. Puis ça pose un problème pour tous les Français qui ont besoin de ces constructions. Et donc, on est en train de travailler avec les équipes pour voir comment le logement peut être une partie très forte, un moteur de la relance. Et moi, je crois, pour rebondir sur vos propos, moi, je crois beaucoup que, comme il faut aller très vite après le confinement, je crois beaucoup à la rénovation. La rénovation, ça a un avantage, c'est que ça permet aux personnes de retrouver du boulot lorsque les chantiers s'étaient arrêtés. Et en plus, ça permet de le faire rapidement, alors même que c'est un besoin pour beaucoup de Français. Donc, avoir des actions fortes pour aller encore plus vite dans la rénovation, je crois que c'est un bon axe, et c'est en tout cas celui sur lequel on travaille, entre autres, pour participer pleinement à cette...
Est-ce que dans le cadre d'une rénovation urbaine, est-ce que vous prévoyez, monsieur le ministre, d'autres chantiers, d'autres plans, évidemment, concernant les principales villes de France, mais notamment aussi les quartiers populaires qui souffrent de cela, justement?
Ben, il y a toute la rénovation urbaine que j'évoquais tout à l'heure, avec l'ANRU, qui concerne beaucoup de logements sociaux, notamment. Donc ça, on est en train de les déployer, et comme je vous le disais, on a multiplié par deux toute notre action, et ça y est, les grues étaient en train de revenir, donc là on va aller encore plus vite demain, j'en prends l'engagement, et je peux vous dire que toutes les équipes de l'ANRU, elles sont extrêmement motivées pour cela. Après, moi j'ai une autre inquiétude sur laquelle on travaille beaucoup, j'étais encore avec le maire de Clichy, le maire de Grigny, hier au téléphone sur ce sujet, c'est les copropriétés dégradées. Ces copropriétés dégradées, c'est parfois des situations de très grandes difficultés, parfois ça amène à des drames, et on en a tous en tête. Et donc, moi, j'ai eu un axe qui est comment on trouve des solutions pour les habitants de ces copropriétés dégradées. J'avais lancé un plan avec les maires que j'évoquais et d'autres sur le sujet. C'est par exemple tout ce qu'on est en train de faire aux chaînes pointues à Clichy, mais beaucoup d'actions qu'on a fait à Marseille suite au drame à Marseille. Et tout le monde, tous ceux qui nous écoutent et qui habitent Marseille, savent à quel point ce que je dis est hyper important. Ben, c'est là aussi un axe où on va aller... dans un déploiement très rapide de tout ce qu'on a lancé et aller encore plus fort parce que ce sujet de la rénovation urbaine, il ne faut pas qu'il oublie le sujet des copropriétés dégradées qui parfois sont d'une extrême difficulté pour les habitants.
Hélas, malheureusement, monsieur le ministre, on aura d'autres occasions évidemment pour prendre les questions de nos auditeurs au 01 53 48 3000, mais j'ai Mohamed Mechmache, autre invité qui nous attend. Qui est le porte-parole d'Assez le Feu. Monsieur le ministre, avant de vous laisser, et je vous remercie d'avance de nous avoir accordé cette interview, qu'est-ce que vous avez envie de dire à celles et ceux qui vous écoutent aujourd'hui ?
Qu'on ne lâchera rien.
Comment se prépare le déconfinement, notamment ?
De dire qu'on ne lâchera rien, parce que je rebondais encore une fois sur cette volonté politique, on ne lâchera rien, nos quartiers sont essentiels pour la République. Et deuxièmement, qu'il faut continuer à mettre et à exécuter ce confinement tant qu'il est en place, parce que à chaque fois, on sauve des vies. Donc, pour protéger ceux qu'on aime, il faut respecter à la lettre ce que les autorités de santé nous disent de faire et ce que le gouvernement ensuite met en place. C'est très important. Il faut rester chez soi dès lors qu'on n'a pas la nécessité de sortir, non pas pour d'autres raisons qu'une raison essentielle, c'est protéger ceux qu'on aime. Et je crois que il n'y a rien de plus important dans la vie que de protéger ce qu'on aime.
Merci, monsieur le ministre, d'avoir été avec nous. Vous êtes le ministre de la Ville, donc merci. Julien de Normandie,
merci à vous
d'avoir consacré donc quelques minutes pour le grand déballage. Merci à vous.
Merci.
Midi 47, merci, midi 47 précisément, pour celles et ceux qui viennent de nous rejoindre. Autre invité pour finir cette émission. Dans le 12-13, dites-moi, je suis avec donc Mohamed Meshmash, bonjour.
Bonjour Adil.
Bonjour, vous êtes le porte-parole d'Assez le Feu. Alors, dans quel état d'esprit vous êtes vous-même, Mohamed Meshmash ? On vous connaît franchement, et je sais que ces dernières nuits, vous avez évidemment agité le drapeau rouge. Pour dire quoi au juste concernant ces tensions entre les jeunes des quartiers populaires, mais également les forces de l'ordre ?
Alors, on a surtout agi là, plutôt sur l'urgence sociale et de colis alimentaires. Voilà, ça fait déjà 3 semaines qu'on apporte une solidarité dans ces quartiers où beaucoup de gens sont en train de souffrir. C'est des gens qui sont travailleurs, qui travaillent, qui sont dignes, mais qui, malheureusement, cette crise sanitaire les touche eux en premier. Donc, on est beaucoup plus mobilisés là-dessus. Ensuite, tout ce qui est en train de se passer concernant le problème de Villeneuve-la-Garenne, tout ce qu'on demande, déjà, c'est que la lumière soit faite sur ce qui s'est passé. D'ailleurs, le jeune lui-même lui dit, écoutez, il n'y a pas de problème, j'ai des antécédents, j'aurais peut-être pas dû, mais c'est pas pour autant qu'on doit m'ôter la vie et qu'on doit agir comme ça vis-à-vis de la police. Donc, bien sûr qu'il faut appeler au calme, encore une fois, jusqu'à quand ? C'est-à-dire qu'à chaque fois, on a toujours le même scénario. Et d'un côté, on a des drames, des gens même qui finissent par mourir, et d'autres qui, clairement, ils n'ont pas sanction. Donc, si à un moment ou à un autre on n'a pas la réponse à tout ce qu'on est en train de vivre et que ces jeunes estiment que c'est injuste, donc si on n'a pas des victoires lorsque on le mérite parce qu'il y a des actes qui sont commis par notre police avec une catégorie de policiers qui ne savent pas se tenir et qui sont en train de nuire à la majorité des policiers, peut-être qu'ils font leur travail correctement.
Mais Mohamed Meshmash, vous avez entendu le ministre Julien de Normandie, justement, quelques minutes là. Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire ? Comment vous réagissez, évidemment ? Je sais qu'il se bat quotidiennement, y compris à vos côtés, pour essayer de trouver des solutions, pour essayer aussi d'apporter ensemble des éléments de réponse.
Les éléments de réponse, je pense qu'il faut faire vraiment confiance aux acteurs de proximité. Il faut parler avec ceux qui vivent dans ces quartiers. Et on peut parler aussi à ces grandes associations qui se disent, et qui disent qu'en tout cas, ils interviennent dans ces quartiers. En tout cas, je peux vous dire qu'actuellement, là, avec ce qui se passe, j'en vois pas beaucoup des grandes associations qui sont soi-disant constamment dans ces quartiers. Alors, il y a ceux qui vivent dans les quartiers qui n'en vivent pas, et ceux qui vivent pas dans les quartiers qui en vivent. Moi, je parle à tous ces petits acteurs qui sont là, en train d'éteindre des incendies. C'est à eux que je pense, en premier lieu. Alors, c'est avec eux qu'il va falloir dialoguer, parce que eux, ils ont cette proximité. Donc le ministre, effectivement, ils essayent d'avancer des billes pour essayer de trouver des solutions. Moi, je leur demande tout simplement de continuer à faire confiance à toutes ces petites associations qui, eux, aujourd'hui, sont le thermomètre et sont aujourd'hui à la pointe de ce qui est en train de se passer. Donc, on est pour minimiser, effectivement, toutes ces violences. Mais ce que je vous dis encore une fois, on ne réglera pas les conséquences si on ne traite pas la cause. Il se passe des choses, et ce n'est pas d'aujourd'hui. Je veux dire, ce qui se passe entre police et population, ces violences en direction de ces jeunes qui, malheureusement, sur du contrôle au faciès, sur une forme de discrimination, sont malheureusement, la plupart, souvent, eux, impactés. Donc, va falloir qu'on ait une parole politique forte. Je sais que ça se fait, je sais que ça se dit, Je sais ce que fait monsieur de Normandie, justement, en direction de ces quartiers. Il va falloir qu'il ne soit pas le seul. Que derrière aussi, il y a d'autres ministres qui doivent aussi porter une parole, qui puissent à un moment ou l'autre rassurer ces quartiers qui, clairement, aujourd'hui, ont le sentiment, eux, que cette injustice, la balance pèse plus d'un côté que d'un autre.
Vous disiez, Mohamed Messias, que vous étiez très impliqué dans le département du 93. Notamment, j'ai posé la question au ministre Julien de Normandie, le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui lui, il dit clairement, je vais reprendre sa déclaration, il redoute des émeutes de la faim. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette déclaration ?
Je ne suis pas du tout d'accord avec cette déclaration. En ce moment, il y a des gens, ce ne sont pas des misérables qui vivent dans ces quartiers. C'est des gens dignes et fiers, et ils sont debout. Ils travaillent. Simplement, effectivement, ils font les boulots les plus ingrats, très mal payés. Cette crise sanitaire vient impacter dans leur porte-monnaie des coûts supplémentaires. J'explique en gros. Le travailleur qui gagne pas bien sa vie, qui se retrouve au chômage partiel, il y a une perte de salaire. Les enfants qui mangent à la cantine, qui ne peuvent plus manger à la cantine, automatiquement ils sont allés à manger, c'est un coût supplémentaire à la maison. Vous utilisez plus d'électricité, plus d'eau, donc les charges vont avoir un coût à la fin de ce confinement. Qu'est-ce qu'on fait pour ces familles-là qui aujourd'hui, malheureusement, ont un manque à gagner? Donc nous, ce qu'on organise, c'est une aide d'urgence.
Mais surtout, vous savez, Mohamed Meshmash, demain, beaucoup dans les quartiers populaires vont vivre le mois du Ramadan.
Oui. Et alors, je pense qu'on l'a vécu depuis certaines années. Moi, je demanderais juste à ce que la police soit beaucoup plus indulgente, tolérante, qu'elle est capable de faire de la médiation quand c'est nécessaire. Quand il faut faire de la répression, personne ne dirait qu'il ne faut pas en faire. Mais je pense honnêtement, on va arriver dans une période où, effectivement, parce qu'on connaît que, notamment dans ces quartiers, il y a une période, effectivement, de Ramadan qui va arriver. Croyez-moi que rester confiné dans des 50 mètres carrés, on n'a pas de jardin. Nos halls sont nos jardins à nous. D'accord ? Donc, à un moment ou l'autre, si les gens ils ont besoin d'aller souffler un petit peu, et encore une fois, en respectant les règles de sécurité, se poser pour prendre un peu l'air, pour pouvoir un peu souffler, pas l'occasion d'aller faire du vélo, promener notre chien, faire du jogging. Si on sort, c'est par nécessité, et c'est nécessité alimentaire. Donc, c'est pas par plaisir qu'on sort. Il va falloir être indulgent pour éviter effectivement que les choses s'enveniment et qu'on commence pas à crier au loup pour que derrière les quartiers s'enflamment. C'est pas en tout cas le message qu'on fait. Nous, on dit au contraire, restez calme.
En quelques mots, Mohamed Meshmash, certains disent que d'ailleurs, avec le coronavirus, avec le confinement, les choses ne seront plus comme avant. Comment vous voyez, justement, je vous pose la question, vous, puisque vous êtes un homme de terrain de longue date. Vous, Mohamed Meshmash, comment vous voyez l'après ?
Alors moi, ce que je dis, c'est que ce qui se passe aujourd'hui, c'est un tsunami. Mais un tsunami qui n'est pas arrivé comme ça. Tout ce qu'on dénonce depuis ces 30 dernières années en direction de ces quartiers, ces inégalités, tous ceux qui demandent à vivre dignement et rentrer dans le droit commun, tous ceux qui aujourd'hui n'ont pas les services publics, comme certains les ont, et qui vivent bien, on est face à cette crise sanitaire, cette crise sociale. Moi, je dis, on arrête les mots et on passe aux actes. Je l'ai dit hier sur une antenne comme France Info. J'ai dit qu'il faut un plan Marshall de ces quartiers. Oui. Il va falloir qu'on prenne en compte réellement les problèmes de fond. Donc je dis encore une fois, traitons la cause et pas les conséquences. Sinon, on n'y arrivera pas. Donc moi, je veux bien qu'il y aura un après. Mais si c'est que dans les mots et que ça ne passe pas aux actes, ça ne servira à rien. Et une autre crise arrivera et peut-être que les mots ne suffiront plus.
Merci Mohamed Meshmash, vous êtes le porte-parole de C'est le Feu. Je vous souhaite évidemment plein de bon courage à vous et vos équipes. Merci d'avoir été avec nous sur l'antenne.
Merci Adil.
Merci Mohamed Meshmash et à très bientôt. Il est 12h55, ça y est, je dois rendre l'antenne. Merci à la réalisation, à Tom qui a réalisé cette émission. Merci à tous nos invités ce matin. À ne pas manquer, notez bien ce rendez-vous, donc dès la semaine prochaine. D'abord, je vous donne rendez-vous ce soir avec Philippe Robuchon, donc dès 18h, pour évidemment vous faire vivre l'annonce du mois du Ramadan. Et ensuite, rendez-vous à ne pas manquer le grand déballage, 12h, 13h, la semaine prochaine, donc tous les jours, à ne pas manquer avec des sujets. Et on sera là donc en direct sur Beurre FM. Merci à vous tous, très très bonne journée à vous. Prenez soin de vous surtout.
Retrouvez le grand déballage tous les jours de midi à 13h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.